Bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on a un document assez fascinant sur la table.
Oui, bonjour.
C'est un dossier spécial de l'hebdomadaire économique EcoBusiness, daté du 13 janvier 2026. Et la une, elle donne le ton, avec un titre qui claque.
Ah oui.
Le manifeste de la jeunesse 2026. La jeunesse n'est pas une variable d'ajustement, mais au cœur de l'économie marocaine.
Ce qui est frappant, c'est que tout le numéro est consacré à un seul texte, qui s'appelle la charte du 11 janvier pour la jeunesse.
C'est ça.
Normalement, on s'attendrait à voir ça dans un magazine de société ou dans les pages politiques. Mais là, dans EcoBusiness, c'est ça qui est intriguant.
Exactement. Et c'est un peu ça qu'on va essayer de faire aujourd'hui. C'est de comprendre cette logique. Comment est-ce qu'ils en sont arrivés là?
Tout à fait.
Parce que dès le dito, on sent que ce n'est pas juste un exercice de style. L'approche est même radicale. Le magazine ne traite pas la jeunesse comme un problème à gérer.
Non.
Mais comme, et je cite, un actif stratégique mal exploité.
C'est ça la clé de lecture. La promesse du dossier, c'est d'analyser chaque point de cette charte, qui est à la base sociale, à travers un prisme purement économique.
Pur et dur.
La question qui traverse chaque article, c'est toujours la même. Combien coûte l'inaction ? Et combien rapporte une réforme bien pensée? Ils ont appliqué une grille d'analyse de rentabilité à des sujets comme la santé mentale ou la participation politique.
C'est fou.
Et c'est ce raisonnement, ce calcul, qu'on va décortiquer ensemble.
Alors, allons-y, commençons par les fondations, le capital humain. La charte insiste évidemment sur l'éducation, la formation. Bon, a priori, rien de nouveau.
On pourrait croire.
Sauf que l'angle épulomique du magazine, bah, ça change tout. Le premier article s'attaque à l'orientation scolaire et il la décrit comme la première politique économique que le Maroc sous-estime.
C'est une analogie très très forte qu'ils utilisent. L'orientation scolaire, là, n'est pas vue comme un service pour l'élève.
Non.
C'est présenté comme une politique d'allocation des talents au niveau national. Et du coup, un mauvais aiguillage, vu sous cet angle, c'est un double gaspillage.
Un double gaspillage.
Oui.
Oui.
D'un côté, il y a le coût direct, c'est-à-dire les dépenses publiques engagées pour des formations qui ne mènent nulle part. Et de l'autre, le coût d'opportunité qui est immense.
C'est-à-dire ?
C'est un potentiel productif, un talent qui reste immobilisé pendant des années.
C'est dingue quand on y pense. On paie pour former un jeune dans une voie sans issue. Et en plus, on se prive de ce qu'il aurait pu apporter ailleurs.
Exactement.
Le magazine parle d'une orientation territorialisée. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ?
Bah, ça veut dire qu'au lieu d'orienter vers des filières nationales un peu abstraites, on oriente vers les besoins concrets d'un territoire.
D'un bassin d'emploi local.
Voilà. L'idée, c'est de mettre fin à cette situation un peu absurde, où certaines régions importent des compétences de Casablanca ou à Rabat, alors que leurs propres jeunes partent faute de formation adaptée sur place.
C'est une logique de circuit court du talent, quoi.
C'est ça.
D'accord. Donc, on oriente mieux. Logiquement, l'étape suivante, c'est la formation professionnelle. Le magazine dénonce l'image de voie de relégation.
Ah oui, qui lui colle à la peau.
Et elle la redéfinit comme un outil de production.
Et même plus, un accélérateur de croissance locale. C'est là que l'analyse devient très concrète. Une offre de formation professionnelle de qualité et adaptée aux besoins d'une région.
Que ce soit l'industrie, l'agriculture...
Oui, l'industrie de pointe, l'agriculture moderne, le tourisme. Ça agit comme un signal économique très fort pour les investisseurs. Le message est clair. Venez ici, le capital humain est déjà prêt, formé pour vos besoins.
Donc, ça attire l'investissement privé.
Exactement. Le dossier va même plus loin en parlant d'enjeux de souveraineté économique.
Ah oui.
Avoir les compétences techniques sur place, c'est ce qui permet de ne pas être juste un sous-traitant et de pouvoir monter en gamme dans les chaînes de valeur mondiale. C'est la différence entre assembler un produit et le concevoir.
D'accord. Alors là, on touche à un point sensible, un vrai angle mort des politiques publiques, les NEET.
Oui, l'acronyme pour « Not in Education, Employment or Training ».
Le magazine a une formule choc pour en parler. La génération invisible qui coûte déjà des milliards. Rien que le titre, ça donne froid dans le dos.
C'est violent.
Pourquoi ce terme si fort ?
Parce qu'ils ont chiffré, ou en tout cas estimé, le coût de cette invisibilité. Il y a d'abord la perte sèche pour l'État. Pas de contribution fiscale, pas de cotisation sociale.
Logique.
Mais le coût le plus lourd, il est indirect. C'est ce que le dossier appelle le frein de la solidarité forcée.
C'est-à-dire ?
C'est très concret. Pensez à une famille de classe moyenne qui doit subvenir aux besoins d'un jeune adulte sans emploi. Cet argent, qui sert à le loger, à le nourrir, bah, il ne va pas dans la consommation.
Ni dans l'épargne productive.
Voilà. Ni dans l'achat d'un bien immobilier. Et ça, multiplié par des centaines de milliers de cas, c'est un frein direct à la demande intérieure. C'est ça le coût macroéconomique.
Vu comme ça, et l'article propose quoi, Vice ?
de les considérer comme une réserve économique à activer. C'est un renversement de perspective complet.
Totalement. L'argument central, c'est que les politiques de deuxième chance, les écoles, les programmes de réinsertion, ce ne sont pas des dépenses sociales.
Mais des investissements. Des investissements à rendement différé. On investit aujourd'hui pour transformer ce qui est perçu comme un fardeau en un futur contribuable, un futur consommateur, un futur créateur.
Mais pour activer cette réserve, il faut une condition de base, que les jeunes soient en état de se battre. Et c'est là que le dossier aborde le sujet le plus inattendu, je pense, la santé mentale.
Ah ouais.
Le titre est incroyable. Le maillon faible de la compétitivité nationale.
C'est le point qui surprend le plus, parce que l'argumentaire est dépouillé de tout sentimentalisme. C'est purement économique.
Comment ça ?
La mauvaise santé mentale, l'anxiété, la dépression, le burn-out, génèrent des coûts cachés énormes pour l'économie. L'absentéisme au travail, le décrochage scolaire, la faible productivité.
La surcharge du système de santé aussi, j'imagine.
Évidemment. La source va jusqu'à définir la santé mentale comme une infrastructure invisible de l'économie.
Une infrastructure invisible ?
C'est une perspective radicalement différente.
Oui. Penser à la santé mentale non pas comme un coût, mais comme une infrastructure. C'est vertigineux. Ça veut dire que le bien-être d'une génération est aussi fondamental que ses routes ou ses ports.
C'est exactement l'idée. La logique est celle de l'investissement préventif. Chaque dirham investi dans la prévention, dans l'accès à des soins, permettrait d'économiser bien plus en dépenses à long terme. La conclusion est sans appel. Une économie ne peut pas être compétitive avec une jeunesse épuisée.
Et ça nous mène logiquement à la deuxième grande partie de l'analyse, les conditions de l'intégration économique. Une fois ce capital humain soigné et formé, comment on s'assure qu'il trouve sa place ?
Et là encore, on parle de qualité, pas juste de quantité.
Le concept d'emploi décent est au cœur, avec un article qui pose la question frontalement. Pourquoi la précarité est un mauvais calcul économique ?
La réponse est macroéconomique. La précarité, c'est des salaires bas, une incertitude permanente.
Donc ça freine la consommation ?
Ça freine la demande intérieure, oui. Ça limite aussi l'investissement des jeunes dans leurs propres compétences. Pourquoi se former si le prochain emploi est tout aussi précaire ? Et bien sûr, ça réduit l'assiette fiscale pour l'État.
Mais on pourrait objecter que, bon, la précarité, c'est toujours mieux que le chômage, non ? Que c'est une porte d'entrée ?
C'est justement cette idée que le dossier conteste.
Ah bon ?
Oui, il fait la distinction entre ce qu'il appelle un emploi tremplin et un emploi trappe. La précarité devient un mauvais calcul quand elle n'est plus une étape, mais une condition permanente.
D'accord.
L'enjeu, ce n'est pas juste d'absorber le chômage à tout prix, mais de construire des trajectoires professionnelles viables.
C'est plus clair. Le dossier explore ensuite un autre gisement d'emploi, et là aussi de manière assez originale. La culture, le sport, les loisirs. Le magazine affirme qu'on les subventionne au lieu de les structurer.
Et c'est un changement de paradigme complet. On passe d'une logique de dépenses sociales.
On finance un événement ponctuel.
Voilà. À une logique de filière économique à part entière. Des secteurs comme l'industrie musicale, les jeux vidéo, le design, ils sont intensifs en main-d'œuvre jeune et, point crucial, ils sont très peu délocalisables.
On ne peut pas délocaliser un festival.
Exactement. Donc, au lieu de juste financer un concert, on finance aussi les techniciens du son, les logisticiens, les communicants, qui en vivent toute l'année.
On transforme des passions en métiers.
Et des subventions en investissement productif. C'est l'idée.
L'onde du travail évolue à une vitesse folle. Et la charte, analysée par le magazine, aborde une compétence clé pour le 21e siècle. Le titre de l'article est une injonction. Former à l'incertitude.
C'est une belle idée.
Oui, mais ça veut dire quoi, concrètement ? On ne met pas la résilience dans un programme scolaire, si ?
C'est la question que pose l'article. Et sa réponse est économique. Dans une économie globale de plus en plus volatile, la capacité d'adaptation d'une main-d'œuvre, ce n'est plus une qualité individuelle.
C'est un facteur de compétitivité collective.
C'est ça. Une main-d'œuvre résiliente, capable de se reformer, de changer de secteur, réduit les coûts de transition pour les entreprises lors des crises.
Elle absorbe mieux les chocs économiques, en quelque sorte.
Exactement. Elle agit comme un stabilisateur automatique pour l'économie. Il ne s'agit plus de préparer les jeunes à un métier pour la vie, mais de les équiper pour une vie faite de transition.
D'accord. On a donc un capital humain bien formé, en bonne santé, résilient, qui a accès à des emplois de qualité. On pourrait s'arrêter là.
Mais non.
Non. La dernière partie d'analyse se penche sur ce qui sous-tend tout le reste. Les règles du jeu. le cadre de confiance, moteur de l'économie. Et là, on entre dans des domaines où on se demande vraiment quel est le rapport avec l'économie.
Le lien entre participation, politique des jeunes et efficacité publique, par exemple.
Voilà. La source y voit un chaînon manquant.
Le lien est en fait très pragmatique. Lorsque les jeunes sont absents des processus de décision, les politiques publiques qui les concernent, l'emploi, le logement, sont souvent mal calibrées.
Elles sont déconnectées de leur réalité.
Complètement.
Ce qui veut dire qu'elles coûtent cher et qu'elles sont inefficaces.
Voilà. Donc, leur participation en amont, ce n'est pas présenté comme un simple droit civique, mais comme un mécanisme de réduction des risques.
C'est un investissement dans l'efficacité de la dépense publique.
En gros, leur demander leur avis avant coûte beaucoup moins cher que de lancer des programmes qui ne serviront à personne.
C'est de l'optimisation budgétaire, en fait. C'est implacable. On continue sur ce terrain avec les libertés publiques. Le titre est, encore une fois, très direct. Un coût quand elles manquent, un gain quand elles existent.
L'argument économique est double. Premièrement, l'absence de liberté, notamment la liberté d'expression, crée un climat d'incertitude, de peur.
Ce qui paralyse l'initiative, c'est l'autocensure.
C'est ça. Les gens n'osent plus proposer d'idées nouvelles, créer une entreprise qui pourrait déranger. C'est une sorte de gel de l'innovation.
Je vois.
Et inversement, la liberté d'expression et de manifestation pacifique est présentée comme un mécanisme de régulation sociale.
Comment ça ?
Ça permet de faire remonter les problèmes avant qu'ils ne se transforment en crises sociales profondes qui, elles, sont extrêmement coûteuses pour l'économie.
Et ça rassure les investisseurs étrangers, j'imagine.
Absolument. C'est un facteur d'attractivité pour les talents et les investisseurs qui recherchent avant tout des environnements stables et prévisibles.
Le dossier se termine sur le duo qui conditionne tout le reste. Corruption et mérite. Et là, le titre sur la corruption est un véritable coup de poing.
Ah oui, lequel ?
Pourquoi les jeunes décrochent avant même d'entrer dans l'économie ?
C'est le point fondamental de l'analyse. La corruption y est décrite comme une taxe invisible sur l'initiative.
Une taxe invisible, j'aime beaucoup l'image.
C'est très parlant, parce que ça fausse complètement l'allocation des talents. Ce ne sont pas les plus compétents qui réussissent.
Mais les mieux connectés.
Voilà, le message envoyé à la jeunesse est dévastateur. L'effort ne paie pas.
Et face à ce constat, le magazine identifie deux réactions possibles.
Deux réactions qui sont toutes les deux une perte nette pour l'économie, soit l'expatriation pour les plus qualifiés, qui vont chercher la méritocratie ailleurs, c'est la fuite des cerveaux.
Soit la résignation.
Soit la résignation pour les autres, qui se retirent du jeu économique formel, ou y participent sans aucun engagement. On boucle la boucle, en fait. La corruption, c'est la fuite organisée du capital humain qu'on a mis tant de soins à vouloir former.
La lutte contre la corruption n'est donc plus une simple question morale.
Elle devient une urgence économique absolue pour restaurer la confiance. Et c'est le fil rouge de la conclusion. Le tout dernier article du dossier pose ce qu'il appelle le vrai choix économique du Maroc. Mérite ou résignation.
Le raisonnement est simple. Une économie qui ne récompense pas l'effort organise sa propre stagnation.
Exactement. La résignation n'est pas un état d'esprit neutre. Elle a des conséquences économiques très lourdes. Elle se traduit par une lente érosion de l'engagement et donc, in fine, par une baisse de la productivité.
Donc, la méritocratie.
La méritocratie, dans cette analyse, ce n'est plus un idéal philosophique. C'est une nécessité économique. C'est la condition pour que la jeunesse devienne enfin le moteur de la croissance.
Quand on fait la synthèse, ce qui est vraiment frappant, c'est ce changement complet de perspective. Ce dossier a pris un sujet qu'on traite habituellement sous un angle social
et l'a passé au scanner de la rentabilité.
Voilà, la question de la jeunesse n'est plus un fardeau à gérer, mais un levier de performance à actionner. Chaque aspect de la vie des jeunes, leur santé mentale, leur participation civique, est décortiqué pour son impact économique.
Et c'est ça la grande force de la source. La charte et l'analyse qui l'accompagne posent une alternative très claire pour le Maroc à l'horizon 2040.
Deux chemins possibles.
Soit le pays s'installe dans ce que le magazine appelle une économie de la frustration, de la résignation et du déclassement.
Où le potentiel de la jeunesse est gaspillé.
Soit il fait le choix difficile, mais rentable, de transformer son dividende démographique en moteur de prospérité.
Le choix est décisif. Et pour prolonger la réflexion, le magazine nous laisse avec une dernière piste. Une question en suspens.
En effet, le dossier a passé son temps à chiffrer ou à évaluer le coût de l'inaction et le gain des réformes. Et la conclusion, c'est que ces réformes semblent non seulement justes, mais surtout économiquement très rentables.
Alors la question, c'est pourquoi on ne les fait pas ?
La question que le magazine laisse ouverte, c'est exactement ça. Au-delà des discours, qui, dans l'économie et la société actuelle, bénéficie tellement du statu quo ?
Au point de bloquer tout ça.
Au point d'empêcher ces investissements pourtant si profitables pour l'avenir du pays.
Une question qui dérange, mais qui est peut-être la plus importante de toutes. Et c'est sur cette interrogation que nous allons conclure notre analyse.